branchés. En tout cas, nous, on a besoin d'être bien branchés. Bon, on l'a! Alléluia! Merci, Seigneur. Vous savez, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu n'a pas de fin. On ne peut pas vivre sur la manne d'hier. On ne peut pas vivre sur les bénédictions d'hier. La parole de Dieu nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce qu'on a épuisé celle d'hier. Donc, on a besoin de nouvelles grâces aujourd'hui. On a chanté tout à l'heure, « Seigneur, transforme-moi. Nous voulons être transformés. » Peut-être vous allez penser, « Bien, pourquoi me transformer? Il ne m'aime pas comme ça. » Oui, le Seigneur nous aime comme ça, mais il veut nous transformer. Il veut vous transformer pour accomplir son plan, sa volonté. Alors, ça demande une transformation intérieure, premièrement, et ensuite, ça demande de transformer nos pensées, parce que nos pensées ne sont pas toujours celles de Dieu, dans le sens que nous, on voit petit. On a une petite intelligence, puis on est limité, puis on voit petit, on a un petit peu comme des fois des œillets, mais le Seigneur veut qu'on ouvre nos horizons, parce qu'il veut nous bénir, il veut vous bénir, il veut vous utiliser à sa gloire. Alors, on va le laisser nous transformer. On va prendre un moment pour prier, s'il vous plaît, parce qu'on ne veut pas être à l'église juste parce que c'est dimanche matin, juste parce qu'on a l'habitude de venir à l'église, mais on veut vraiment recevoir ce que Dieu a pour nous ce matin. Le Seigneur a un dépôt de son esprit pour chacun, chacune de vous ce matin. Alors, on va vraiment, on veut puiser dans ses grâces. Père éternel, on s'approche de toi dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es ici, présent au milieu de nous. Nous t'accueillons, Seigneur, avec révérence. Nous, on te remercie pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci parce que c'est toi qui travailles dans nos cœurs. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as de bonnes choses pour nous, Seigneur, dans ton plan. Merci, Seigneur, que ton esprit est sur moi et en moi, Seigneur Dieu, pour apporter le message que tu as mis sur mon cœur. Merci que cette Église a des oreilles pour recevoir et entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, dernièrement, nous, les femmes, on a eu une belle conférence. Combien de vous étiez là à la conférence des femmes le mois passé? On était bénis. Et le thème était sur la prière. Et puis, si vous êtes venus lors des trois mercredis précédents, Pasteur Tania nous a apporté aussi de la bonne enseignement sur la prière. Donc, la première semaine, elle a parlé sur la communion. La communion, la fraternité avec Dieu. Et la deuxième semaine, c'était les obstacles. Des obstacles qui peuvent nous empêcher de prier. On est trop occupé, on a des choses, on a plein d'affaires. Puis c'est vrai, c'est des fois, ce sont des choses légitimes. Mais comme l'ennemi aime ça, mettre des obstacles, des embûches sur notre chemin pour nous empêcher de prendre un temps avec le Seigneur. Et la semaine passée, c'était sur la consécration. Comment c'est important de consacrer nos cœurs au Seigneur. Alors, en cherchant la face du Seigneur, lorsque Pasteur Ken m'a demandé d'apporter la parole, je priais, puis j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que toi, tu partagerais à ton peuple si tu étais ici à ma place? » Puis c'est, le Seigneur a mis sur mon cœur aussi encore de parler sur la prière. Donc, ça, c'est pas du hasard. C'est parce que l'Esprit veut vraiment nous donner un message. Il veut vraiment qu'on comprenne l'importance de la prière. Parce que c'est la prière qui peut changer nos vies. Il y a l'Esprit, oui, il y a la parole. Mais la parole sans la prière, ça ne produira pas grand-chose. Ça prend les deux. Ça prend et l'Esprit, ça prend la parole de Dieu de façon journalière, mais ça prend aussi la prière. Parce qu'on aimerait ça savoir que tous nos prières sont répondues, n'est-ce pas? Dans Marc 11, 24, c'est clair. Tout ce que vous demanderez, tout. Et si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Jacques. Jacques, le chapitre 5 et le verset 16. L'épître de Jacques, le chapitre 5 et le verset 16, qui nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, la prière fervente, c'est vraiment une prière qu'on ressent du cœur. C'est pas juste des petits mots qu'on va lancer à la légère comme ça, tout en brassant la soupe, en faisant attention que la soupe, ça spaghetti, elle brûle pas. Puis là, on garoche 2-3 mois à l'air, puis on dit, « Ah, j'ai prié! » Non, c'est quelque chose qu'on ressent du cœur. C'est fervent. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors cette semaine, en préparant mon message, je parcourais la parole de Dieu. J'ai été étonnée de constater combien de récits bibliques, des grands exploits, des miracles qui ont eu lieu par la prière. Des fois, on s'arrête à l'exploit, on dit « Ouh, waouh, la mer rouge s'est ouverte! » Ouh, puis on est là. Oui, c'est grand, c'est merveilleux. Puis on s'arrête à un exploit, puis un autre, puis un miracle, puis un autre. Puis on oublie que ces choses-là ont été faites par la prière. Je regardais, par exemple, dans Josué. Josué a prié, puis le soleil et la lune sont arrêtés. Ils ont resté en place. Parlez-moi d'un miracle, ça. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui sont capables de faire ça, d'arrêter le soleil et la lune pour qu'ils restent en place. Ensuite, je regardais l'histoire de Samson. Pour ceux qui sont familiers un petit peu plus avec les histoires de l'Ancien Testament, Samson, quand Dalila l'a trahi, parce qu'on sait que sa force résidait dans sa chevelure à Samson, puis là, Dalila l'a trahi, puis là, il a été livré vers les Philistins, puis ils ont été capables de lui crever les yeux, puis sa tête a été rasée. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Puis quand il a vu les Philistins venir sur lui, ils l'ont pris, puis ils l'ont piégé, puis ils ont crevé les yeux. Mais on l'a emmené dans le temple. Samson a prié, puis a retrouvé sa force. Il s'est appuyé contre les colonnes, puis le temple est tombé. On pense à Daniel quand il était dans la fosse aux lions. Moi, j'aime ça voir des lions, mais dans la cage. J'aime bien ça aller au zoo, puis on est tout impressionnés. On dit « Ah, wow, regarde! » Puis on essaie de les faire. On voit des fois le gardien qui vient, puis il met de la viande, puis là, ouh, on voit le lion qui saute après le poulet. On est tout impressionnés, puis on trouve ça le fun. Wow! Mais si on était là, c'est comme... On aimerait moins ça. Mais lui, Daniel a prié, puis un ange est venu fermer la gueule des lions. Je pense dans les Actes des Apôtres aussi, quand je regardais l'histoire de Lydie. Lydie ou Tabitha, qui était une femme, la parole de Dieu nous dit que c'était une femme qui faisait de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Puis elle s'est mise à genoux. Tout simplement, il a prié, puis il a dit, « Lève-toi, Dorcas, lève-toi. » Il l'a appelé par son nom. Juste dans la prière, il n'a pas fait une cérémonie à finir. Il a fait sortir les veuves. Il était tout là avec les flûtes, puis il pleurait. Puis bon, la cérémonie des pleurs qui était là, il a fait sortir tout le monde, puis il a simplement s'est mis à genoux, puis il a prié. Puis il a dit, « Tabitha, lève-toi. » Ensuite, on pense à Élie. Élie qui a prié, puis il n'a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi, même pas de rosée, la sécheresse totale pendant 3 ans et demi. Ensuite, il a prié à nouveau, puis la pluie est venue. Souvent, on est porté à penser, « Ah oui, mais ça, là, ça, c'est des récits bibliques, là. Hey, écoute, tu me parles de l'apôtre Pierre. Là, tu es en train de me parler des prophètes. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est certain que les autres, ces gens-là, ils avaient sûrement un grand privilège dans la prière. Il y avait une onction, là, que moi, je n'ai pas pour la prière, c'est certain, parce que c'est des grands hommes de Dieu. Tournez avec moi, si vous êtes dans Jacques. Jacques 5, le verset 17. Qui nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Wow! Hey, ça rapproche l'histoire un petit peu plus de nous, hein? Il était un homme de la même nature que nous. J'ai regardé dans le français courant, puis j'ai aimé ça comment c'est écrit. Ça dit, Élie était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Ça veut dire qu'Élie, il avait le potentiel de se mettre en colère aussi. Piquer une crise! Manquer de patience, frapper des fois du pied, puis il y avait la nature de nous, la même nature, il était soumis aux mêmes sentiments puis aux mêmes expériences que nous, puis il a prié puis il n'a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Je suis convaincue que le Seigneur a mis ce récit-là dans sa parole parce qu'il savait qu'on était à penser comme ça. Ah oui, mais eux autres, ce sont à part, eux autres, là. Ils sont grands, c'est des prophètes. Non, il y avait la même nature que nous. Alors, si eux, ils avaient des réponses à leurs prières, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas tous nos prières répondues? Vous allez dire, peut-être, c'est exagéré. Tous nos prières? Oui, on peut avoir tous nos prières répondues. Selon Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez. Là, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant. Alors, ça veut dire quoi, tout? N'importe quoi. N'importe quelle chose, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que nous, puis je me prêche à moi aussi ce matin-là, je m'inclus, est-ce qu'on peut dire que tous nos prières sont répondues? Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois que je prie, j'ai toujours la réponse à ma prière? Sinon, si on peut répondre non à ça, où on dit, bien, de temps en temps, oui, assez souvent, oui, mais j'ai des réponses à mes prières. Mais je ne peux pas dire que j'ai toujours la réponse à tous mes prières. Vous savez, tout comme les promesses de Dieu sont conditionnelles, est-ce que vous savez que les promesses de Dieu sont conditionnelles? Ça n'arrive pas de façon là, comme de la magie. Là. C'est conditionnel. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Donc, la prière aussi. Il pourrait que la prière soit conditionnelle. On va voir ensemble, on va regarder des choses ensemble. Parce que vous savez que la volonté de Dieu, sa volonté parfaite, c'est que nous ayons tous nos prières exaucées. C'est ça que sa volonté parfaite. Il veut répondre à nos prières. Il veut nous donner le désir de nos cœurs. Il veut nous donner, il veut vous donner ce dont vous avez besoin. Parce qu'on a vu, c'est tout. Tournez avec moi dans l'Épître de Jean. 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 22. L'Épître de Jean. 1 Jean 3, 22. Ça commence ainsi. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, que nous faisons ce qui lui est agréable. » Là, vous allez dire, « Ah, ben attends un petit peu, là. Wow! Là, ça ne marche plus, là. » On est sous la grâce. Moi, je suis pas sous la loi, là. Je suis plus ça, avec les 10 commandements. Ça, c'est pour les Juifs. Ça, c'est pas pour moi, pas en tout. Moi, je suis sous la grâce. On va lire le verset 23. C'est ici mon commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc, voyez-vous, les 10 commandements, ils ont été donnés simplement pour montrer à l'homme, l'être humain, qu'on n'est pas capable de garder les 10 commandements. Mais le Seigneur a laissé un commandement. C'est qu'on croit au nom de son Fils Jésus-Christ et qu'aussi on s'aime les uns les autres. Donc, on va regarder la première condition. Parce qu'on a parlé que c'est conditionnel. Si les promesses de Dieu sont conditionnelles, la prière aussi est conditionnelle. Donc, la première condition pour avoir nos prières répondues, toutes nos prières, se trouve dans le verset 22 à la fin. Que nous faisions ce qui lui est agréable. Comment est-ce qu'on peut être agréable à Dieu? Vous allez dire, bien là, je fais mon possible. Je prie chaque jour, je lis la parole, j'essaie de faire du bien autant comme je peux autour de moi. C'est quoi d'autre qu'il veut, là? C'est qu'est-ce qui manque pour que je puisse lui être agréable? D'être agréable à Dieu, c'est d'essayer d'arrêter de se plaire à soi-même. On peut être égoïste des fois en essayant de se plaire à nous-mêmes. Pas que Dieu ne veut pas nous donner des bonnes choses, mais se plaire à nous-mêmes, on dit, bien là, ta volonté, là, je le sais ce que tu veux pour moi, Seigneur, mais pas tout de suite, là. Ça ne me plaît pas. Je cherche autre chose pour l'instant, là. On arrête de se plaire à nous-mêmes. On arrête d'essayer de plaire aux autres aussi. C'est facile, vous savez, de tomber dans ce piège-là, de dire, bien, oh là, mais si je fais plaisir aux autres, si j'arrête de faire plaisir aux autres, je vais perdre mes amis, je vais perdre le respect que les gens me donnent. C'est pas évident, là, j'ai pas le goût. Je veux aussi que les gens m'apprécient. J'aime ça quand les gens vont dire des bonnes choses de moi, parce que des fois, on va compromettre un petit peu. On va dire des choses, mais on fait attention de la façon qu'on le dit. On va témoigner, mais on n'en dit pas trop, parce qu'on a peur que les gens, la réaction, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ou même des fois, quand on approche la tribune pour les prédicateurs, faire attention des fois de ne pas trop mettre de l'eau dans le vin, de peur de frustrer l'auditoire. Parce que les gens, des fois, on aime ça avoir des messages qui chatouillent, qui nous flattent, qu'on dit « Wouh! Gloire à Dieu! Wow! Dans la victoire! » Oui, c'est tout vrai qu'on marche dans la victoire. Mais on marche aussi dans l'humilité avec notre Dieu. On veut absolument que toutes nos prières soient répondues. Alors, de faire plaisir à Dieu, d'être agréable à Dieu, on se débarrasse du « moi ». Puis on s'approche de Dieu avec la pensée, l'effort et le désir de plaire à Dieu seul. Vous savez que des fois, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pas important. C'est pas grave si on ne plaît pas aux autres. Pourvu qu'on plaît à Dieu. Pourvu qu'on fait ce que Dieu nous a demandé sur le moment. C'est ça qui est important. Ça, c'est d'être agréable à Dieu. De faire avec nos pensées, qu'on ait la pensée, qu'on mette tout notre effort et tout mon désir de plaire à Dieu seul. Si on veut que nos prières soient exaucées, vous savez, il faut rencontrer les conditions. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'on est privé des réponses qui nous appartiennent, qui sont légitimes selon la parole de Dieu. Mais parce que la prière n'a pas été répondue, on a tendance à dire, « Oh, ça doit être comme ça. » Si ça avait été la volonté de Dieu, mais l'aurait donné. Ben là, je suis malade, puis il me laisse malade. Peut-être finalement que c'est sa volonté que je sois malade. Hey, ça y amène de la gloire, il voit que je le loue pareil, je suis à l'église les dimanches matins. Voyez-vous l'importance de savoir que tous nos prières sont répondues? Parce qu'on tombe dans l'extrême comme ça. On tombe aussi dans le découragement. Puis là, on regarde les prières qui sont répondues, puis on glorifie le Seigneur, mais ceux qui ne sont pas répondus, on a tendance à mettre ça de côté parce que là, ça devient décourageant. On dit, bien là, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 1 semaine que je prie pour telle personne, je prie pour telle chose, ça n'arrive pas. Ah, bien, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Puis on met ça dans le tiroir d'en bas, puis on l'oublie pendant que Dieu dit, je veux que toutes tes prières soient répondues. Mais on doit rencontrer les conditions. La première, c'est de lui être agréable. Agréable à mon Dieu, à mon Seigneur, à lui seul. Donc, la deuxième condition, dans Jean, l'Évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 7, parce qu'on parle d'être agréable à notre Dieu, de faire toute sa volonté. On veut avoir nos réponses, l'exaucement à tous nos prières. Donc, Jean 15, l'Évangile de Jean 15, chapitre 15, le verset 7. Voyez-vous, ça commence avec un « si ». Donc, c'est conditionnel. « Si vous demeurez en moi » et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc, de demeurer en lui, ce n'est pas de venir faire une petite visite le dimanche matin ou le mercredi, dire, bien là, regarde, je suis à l'église. Là. Demeurer en lui, c'est autre chose. Demeurer en lui, c'est de marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2, 6 nous dit, celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme il a marché. J'ai regardé dans la français courant, j'aime ça avoir des différentes versions parce que des fois ça rend le message encore plus clair. Ça lit comme suit. Demeurer dans une communion permanente avec lui. Donc on ne sort pas de sa communion, on ne sort pas de sa présence, pas en quittant l'église le dimanche matin à midi, on a hâte d'aller manger notre poutine ou quoi que ce soit. Puis là on sort de sa présence. On demeure en lui, on demeure avec lui. On va manger notre poutine avec lui. Tout ce qu'on fait, on le fait avec lui. Nous demeurons en lui et sa parole doit demeurer en nous. On doit s'accorder avec sa parole pour recevoir ce que nous avons besoin. Donc, de demeurer en lui, c'est de se débarrasser de tout péché, de toute désobéissance. Vous savez, on ne parle pas juste des gros péchés. Là. Souvent, quand on parle de péché, on pense aux péchés sexuels. On pense à aller voler la banque. On pense à des grosses affaires. Mais des péchés, souvent, c'est des petites choses, puis on le sait dans notre cœur. Mais on le garde, on traîne ça avec nous. On amène ça, puis on tire ça avec nous, puis on dit, bien là, je demeure en toi, Saint-Messagnat, dis, regarde en arrière de toi, là, tu n'avances pas vite, il y a un boulon que tu traînes. Là. Puis ça fait longtemps que je te parle de ça. Ça fait longtemps que je te dis de te débarrasser de ça. Je veux te mettre ça de côté. Toute désobéissance. Des petites choses, des fois. Comme juste aller à l'épicerie, des fois, puis on va déplacer une chose. On regarde le prix, puis là, c'est trop dispendieux, le prix convient pas, c'est pas la bonne marque. On le met juste sur une autre tablette, puis on s'en va. Des petites choses comme ça. Replacer l'objet où on l'a pris. Ça veut dire, il y a des commis pour faire ça. Oui, mais nous, on est là pour être le sel de la terre, la lumière du monde. Peut-être un jour, vous allez témoigner à cette personne-là, puis il va se souvenir que vous avez même déplacé un objet dans un magasin, puis vous ne l'avez pas remis à la bonne place. Donc, c'est dans les petites choses, l'obéissance dans les petites choses, se débarrasser de tout péché connu, gros ou petit. Il faut mourir à nous-mêmes. Je pense que c'est là le plus grand obstacle. Souvent, on est prêt à délaisser des choses, on abandonne plein de choses, mais on garde le moi. C'est le moi qui me garde emprisonné. Si on veut devenir un avec lui, on doit se débarrasser du moi. Vous êtes toujours dans les évangiles de Jean, donc tournez juste quelques pages, le chapitre 17, le verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voyez-vous la volonté de Dieu? Jésus était un avec son Père. mais il veut que nous soyons un avec lui. La belle communion qu'il jouissait avec le Père Céleste, il veut que ça, ça nous appartienne aussi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde voit que tu m'as envoyé. Alors, on a un travail à faire ici-bas sur la terre. On a besoin d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Les gens ont besoin de voir que nous sommes un avec le Père et qu'il est un en nous. Alors, si on est un avec lui, on ne fera pas rien qui est à part de lui. On ne commencera pas à diviser puis à cataloguer notre vie chrétienne, de mettre ça dans des cases. Ça va dans cette case-là. Tel jour, là, je demeure en lui, je fais les choses qui le font plaisir. Mais là, rendu lundi matin, là, il faut que je change les affaires. Là, il faut que je les mette là, puis on ajuste tout, puis on met tout dans des cases différentes. On demeure en lui, on ne fera rien de ce qui est à part de lui. Peu importe le loisir qu'on est après faire, parce que le Seigneur veut qu'on ait des loisirs. On est dans la saison estivale, le beau temps est arrivé, les vacances. Profitez-en, mais restez demeurés en lui. Restez un en lui. Faites rien à part de lui. Que vous allez à la plage, vous allez là pour sa gloire. Que vous allez manger au restaurant, que vous allez visiter une nouvelle église, que vous allez voir des amis de la famille, on demeure en lui. On ne fait rien qui est à part de lui. On va faire comme Jésus. Jésus a toujours fait tout ce qu'a vu le Père faire. Il n'est pas venu parler de lui-même, il est venu parler de celui qui l'a envoyé. Il n'est pas venu faire sa volonté, il est venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Si on prend l'exemple de deux bœufs, aujourd'hui on a des grosses machines John Deere là, qui vont défraîchir la terre et tout ça, on n'a plus besoin. Mais si on pense, on recule, puis même on pense à d'autres pays où ils n'ont pas ces machineries-là, ils vont lier, ils vont attacher, ils vont mettre un joug à deux bœufs. Ces deux bœufs-là, ils n'ont pas le choix de s'en aller. Ils marchent dans la même direction. Ils doivent s'arrêter ensemble. Ils n'ont pas le choix. Ils marchent ensemble, ils s'arrêtent ensemble, puis ils s'en allent dans la même direction. Ils sont liés ensemble. Le Seigneur dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué. Mon joug est léger. Prenez mon joug. Il veut qu'on prenne son joug à lui. Il veut qu'on s'en aille dans la même direction que lui, il nous amène. Il veut qu'on marche avec lui. Il veut que tout ce que nous fassions, on le fasse avec lui. Donc, on va regarder une troisième condition parce qu'on parle d'avoir des réponses à nos prières, à tous nos prières. Donc, on voit, d'après la parole de Dieu ce matin, hein, que c'est conditionnel. L'amour de Dieu est gratuit, mais pour recevoir les bienfaits de Dieu, c'est conditionnel. Donc, la troisième condition, c'est de demander dans le nom de Jésus. Jean 14. On est toujours dans l'Évangile de Jean. Donc, Jean 14, le chapitre 14, le verset 13 nous dit tout. Voyez-vous, on retrouve encore comme dans Marc 11, 24. Tout. Toujours le tout. C'est là pour quelque chose. C'est là, pas parce qu'ils ont voulu juste mettre des mots. C'est là le tout parce que c'est tout. Dieu veut nous donner tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous demandons. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais vous savez, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Des fois, on va faire une courte prière, puis on dit, oh, « Oui, mais si j'ajoute à la fin, dans le nom de Jésus, là, on pense qu'on vient de déclencher tout le ciel en notre faveur. » Ce n'est pas une baguette magique, le nom de Jésus, puis ce n'est pas une formule magique non plus. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Le nom de Jésus, parce qu'il nous a donné son nom, il nous a donné l'autorité qu'il y a derrière ce nom-là. Mais de prendre le nom de Jésus, ça veut dire de revêtir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. De le revêtir dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. C'est-à-dire d'avoir une marche pure et digne à sa gloire. Là, on peut prendre le nom de Jésus, puis on va voir les choses changer. Ce n'est pas une formule magique. Trop souvent, on dit, « Oh, tout dans le nom de Jésus. » Puis on a des choses cachées dans nos cœurs. On a des choses avec lesquelles le Seigneur deal avec nous depuis longtemps. Des petites choses comme des grandes choses. Puis le Seigneur veut qu'on se débarrasse de ça. Puis on essaie de prendre le nom de Jésus, puis on dit, ça ne passe rien. Comment ça fait ça? J'ai pris le nom de Jésus. C'est ça qu'ils me disent à l'église. Je vais à l'église de la vie comblée. Hey, voyons donc. Puis à tous les dimanches matin, on me dit, hey, dans le nom de Jésus, tu vas déplacer des montagnes. Dans le nom de Jésus, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis là, on prend le nom de Jésus. On n'est même pas capable de déplacer une mouche. Puis on dit, voyons, c'est quoi qui marche? Faut le revêtir. Faut le revêtir dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Il faut vivre comme Jésus vivrait s'il était assis à votre place. Vous voyez à quel point c'est important, c'est sérieux de prendre le nom de Jésus. On l'engage à parler à notre place. On l'engage à se tenir là, debout, à notre place. Église de Dieu, comprenez à quel point c'est sérieux de prendre le nom de Jésus. On engage notre maître, on engage notre Seigneur. Si notre vie n'est pas en règle avec lui, on ternit son nom. On amène de l'opprobre sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus était notre modèle, puis il l'est toujours. Il a été notre modèle, il a toujours agi, puis il a toujours marché de manière à être agréable à son Père. Toujours dans Jean, Jean 8, j'aime beaucoup les évangiles, parce que ça nous montre la vie de Jésus, le ministère de Jésus. Faut pas négliger de lire les épîtres, mais des fois c'est bon de revenir aux évangiles, parce qu'on veut être comme Jésus, on a chanté tout à l'heure, Seigneur, je veux être comme toi, transforme-moi, je veux te ressembler de plus en plus. Mais c'est dans les évangiles qu'on voit le ministère de Jésus, on voit la façon que Jésus se comportait, on voit les paroles qu'il a prises quand il priait à son Père. Jean 8, 28 nous dit à la fin du verset, « Je ne fais rien de moi-même ». Hey, c'est Jésus qui parle. Il aurait bien pu dire, attends un peu, là, je suis le Fils de Dieu, ça va faire. C'est rien de lui-même, mais je parle selon ce que le Père m'a envoyé. Une soumission totale à son Père. Donner totalement pour le plan de Dieu, pour le plan de son Père. Vous savez que Jésus n'a jamais cherché à se plaire. Il ne cherchait pas à se plaire à lui. Il aurait pu, parce qu'il y a eu un temps où il était célèbre. Il devait sortir, devait se cacher des fois, il devait disparaître. Les foules venaient à lui. Il a goûté un moment de prestige, un moment où le Seigneur a goûté à la popularité à cause des miracles qu'il faisait. Mais il n'a jamais cherché à se plaire. Il aurait pu se mettre les pouces et dire, « T'es un peu, là, la croix, hein, ça va bien, je suis présent. » Quand on me donne ça, les foules, j'ai de la misère à me cacher, je suis obligé d'embarquer dans le bac, puis traverser l'autre bord, puis j'arrive l'autre bord, ils sont là. Là, la croix, je ne sais pas, je vais y penser comme faux. Hey, c'est le fun, là, c'est en train de vivre un moment de gloire, wow! Non, il n'a pas pensé à lui. Il ne s'est pas arrêté pour se faire plaisir à lui. Il n'a jamais cherché sa gloire non plus. Il n'a jamais cherché sa renommée. Même qu'il guérissait des gens, puis il disait, dis-les pas. Va pas le dire. C'est ce que j'ai fait. Parce que son heure n'était pas venue encore. Son moment de gloire n'était pas venu encore, où il devait rendre gloire pour le Père. Il n'a jamais cherché son honneur non plus. Le Seigneur Jésus ne cherchait pas son honneur à lui. Vous savez, des fois, on peut faire des bonnes choses. On peut faire des choses qui sont légitimes. Même en tant que ministre, des fois, on peut apporter des paroles qui sont loin. Mais dépendant du motif pour lequel on le fait. Si on le fait pour être vu, si on le fait pour être reconnu, si on le fait pour que les gens disent « Ah, wow! » Vous savez, ça vient de perdre sa valeur. Il ne faut pas chercher une vaine gloire. Il faut être comme Jésus. Il a toujours cherché l'honneur de celui qui l'a envoyé. Jésus a marché dans la plus grande humilité. Il a pris la place qui était la plus basse, celle d'un serviteur. Des fois, on dit, oh, je veux faire quelque chose de grand pour toi, Seigneur. Ouh, j'aimerais ça aller l'autre bord du monde, prêcher ta parole en Chine, puis on veut tout faire. Oui, le Seigneur nous réserve des grandes choses. Il réserve à cette Église ici de faire des grandes choses, des exploits, des miracles en son nom. Il vous réserve des grandes choses. Mais celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur de tous, comme Jésus a fait. Il a pris la place la plus basse, celle d'un serviteur, s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est une place basse. Parce que ses disciples, quand ils se rendaient quelque part, souvent, ils étaient soit pieds nus ou ils étaient en sandales, ils marchaient dans n'importe quoi. Hein. Il n'y avait pas des belles rues pavées comme ici, là. Des fois, on est là, nous autres, on a une petite poussière, on a une petite roche dans notre soulier, puis on se dépêche, puis on le vire à l'envers. Non, non, ils marchaient, eux autres, il y avait des excréments d'animaux, là. Ils marchaient dans n'importe quoi qui était là. Les routes étaient sales, c'était de la boue. Puis, s'est abaissé, puis il a lavé les pieds de ses disciples. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la place d'un serviteur. Il s'est dépouillé de sa gloire. Parce que Jésus était, il est toujours le Fils de Dieu. Il s'est dépouillé de toute sa gloire pour prendre une nature comme la nôtre. Imaginez, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est abaissé puis a revêtu une nature comme la nôtre. Il a goûté à ce que nous goûtons. Il a goûté à l'abandon, le mépris, le rejet. comme nous. Il a revêtu une nature comme nous. On oublie ça souvent, ces choses-là. Puis pourtant, ce sont des choses tellement importantes. Parce qu'on dit toujours, trop facilement, des fois, de notre bouche, on dit, « Oh, rends-moi semblable à toi, Seigneur. » Mais là, on nous demande une petite tâche, on nous demande une petite chose. « Hey, attends un peu. Je ne peux pas faire ça, là. Voyons, prends-tu des fous? Dans la pouponnière, m'aller changer des couches? Je n'ai levé 4-5 enfants qui allaient changer les couches, eux autres, là. Voyez-vous? Mais rends-moi comme toi, Seigneur. Ou une autre petite chose. Le Seigneur veut qu'on serve comme lui-même a servi. Si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en confier des plus grandes. Mais il ne nous confiera pas les plus grandes si on n'a pas été fidèle dans les petites choses. C'est des tests, ce sont des choses que le Seigneur nous montre. Il atteste notre fidélité, puis il a le droit. Parce qu'on lui a dit, t'es mon Seigneur. T'es pas juste mon sauveur, t'es mon Seigneur. Seigneur, je te permets de sonder mon cœur. Seigneur, assurez-vous qu'il va sonder votre cœur, il va sonder vos motifs, il va tout apporter à la lumière. En lui, il n'a point de ténèbres. Ce que nous, on ne voit pas à l'œil nu, lui le voit. Il voit les motifs, il voit le pourquoi du pourquoi. Alors, on va être vraiment comme lui. Il a revêtu une nature semblable à la nôtre. Pensez à ceci pour un instant. C'est en faisant la volonté de son Père. C'est ça qui en met le mépris et le rejet des hommes à Jésus. En faisant la volonté de son Père. S'il avait dit pour un instant, non. Non, pas ça, Seigneur. Je vais faire d'autres choses, mais pas ça. Des miracles, oui, ça, j'aime ça, continuer à faire des miracles, et c'est le fun, les foules viennent, nanana. Non. Il a fait tout ce que le Père lui a demandé. C'est à cause de cette fidélité-là, à cause de cette l'obéissance totale qu'il a eu à son Père, ça lui a amené le mépris puis le rejet des hommes. Sa création même s'est tournée contre lui quand il a fait la volonté de son Père. C'est dans cette obéissance-là, c'est par l'obéissance à son Père, c'est ça qui l'a emmené à Gethsémani. Il n'était pas obligé d'y aller. Il s'est rendu là volontairement. Il s'est agenouillé, puis a pleuré, puis on dit qu'il y avait des grumeaux de sang qui sont sortis de son front. Tellement il était dans une angoisse, il savait ce qu'il attendait. C'est l'obéissance qui l'a emmené à Gethsémani. C'est son obéissance qui l'a emmené au calvaire. C'est pas juste à cause qu'il a été flagellé, puis à cause qu'il y a eu des clous plantés, puis une couronne d'épines sur la tête. C'est pas ça qui a été le pire pour Jésus. C'est quand il a vu son Père se détourner de lui pour un instant. Parce qu'il est devenu péché pour nous. Il est devenu péché pour vous. Le Fils de Dieu. Il a vu son Père se tourner de lui. Imaginez. Pensons à ça pour un instant. Ce qu'il a fait pour nous. C'est son obéissance qui l'a emmené là, pour nous. Il est devenu péché pour nous. Il est devenu péché à votre place. Pour qu'aujourd'hui, on puisse dire, oh, Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Mais c'est lui qui nous a mis le premier. S'il avait attendu après nous, ça n'aurait pas fonctionné. Parce qu'on a vu tout à l'heure, dès qu'il a commencé à obéir au plan de Dieu, ça lui a amené du mépris. Ah, ils ont dit, ben non, hey, celui qui fait des grands miracles, celui qui opère des grandes choses. Même les Juifs, ils étaient en scandale pour les Juifs, pour son peuple. Ils attendaient un grand Messie. Ils ont dit, pas ce petit bonhomme-là. Ce petit gars-là, du charpentier, qui s'est né à Bethléem, ce petit gars de Marie et Joseph. Lui, qui se dit le Messie, il se dit le Fils de Dieu. Le Père qui s'est détourné de son Fils pour un instant. C'est cette sorte d'obéissance-là qui a plu à Dieu le Père. Puis aujourd'hui, Jésus nous invite. Il vous invite à marcher dans ses traces. C'est un message qui est sobre ce matin. C'est peut-être pas un message qui va nous faire crier « Alléluia » à chaque instant, mais des fois, il faut être amené à la réalité. Il vous invite à marcher dans ses traces. Le Seigneur vous invite ce matin à demeurer en lui, pas juste venir rendre visite à l'occasion. Vous savez, vous pouvez venir à l'église dimanche après dimanche, mois après mois, année après année, puis jamais être changé. Parce que vous ne demeurez pas en lui. Dès que vous quittez la porte ce matin, si vous n'avez pas demeuré en lui, l'ennemi va venir et va voler la semence. Parce qu'il est un voleur. Il faut vous demeurer en lui pour que cette semence-là puisse prendre place. Arrosez-la par la prière. Ça va croître, ça va grandir en vous. Donc, il vous invite à demeurer en lui. Il vous invite à être agréable à lui. On a vu c'est quoi être agréable à Dieu. Se débarrasser du moi, se dépouiller de moi-même, de mes buts, mes plans, ma gloire, mon prestige, tout ce que j'ai pour dire, Seigneur, je mets tout ça de côté, comme l'apôtre Paul il a considéré tout ça de la boue. C'est pas un fou, là. L'apôtre Paul, c'est un homme grand, puis il a considéré toute sa connaissance, tout ce qu'il avait dans le naturel, il a mis ça comme de la boue pour suivre le Seigneur Jésus. Lui qui avait méprisé l'Église de Dieu, lui qui a mis des chrétiens à mort. C'est le premier martyr, c'est Étienne. Par le décret de l'apôtre Paul, Étienne est mort. Puis Paul a dit, je mets toute ma connaissance. Il avait été dans les meilleures écoles, il avait été sous les meilleurs maîtres, les meilleurs enseignements, je constate tout ça de la boue, afin de gagner Christ. Faisons attention à nos motifs. Pourquoi on veut faire des choses? Pourquoi on veut de l'avancement? Que le Seigneur puisse sonder nos cœurs ce matin. Puis de demander dans le nom de Jésus. Le nom précieux de Jésus. On doit demander dans le nom de Jésus. Mais on a vu que de demander dans le nom de Jésus, c'est de le revêtir. Le revêtir dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. C'est d'agir comme si Jésus était ici ce matin. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il dirait à ma place? Sinon, on blasphème le nom de Jésus. Si on prend le nom de Jésus, puis on ne vit pas, puis on n'a pas revêtu sa nature, on traîne le beau nom de notre Seigneur Jésus dans la boue. Alors, si on veut que nos prières soient répondues, si on rencontre les conditions, on a vu des conditions à la prière. Si on rencontre les conditions, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Pourquoi? Parce que là, nos prières, ça ne sera pas de demander une deuxième puis une troisième maison. Ça ne sera pas de demander un chalet par-dessus la troisième maison. Ça ne sera pas de demander une BMW pour remplacer mon Ford ou des choses comme ça. Le Seigneur veut nous donner de la prospérité. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce qu'on fait, c'est l'amour de l'argent. Ce n'est pas la prospérité qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. Mais on va demander, nos prières vont être rencontrées si on demande en accord avec sa volonté. Être en accord avec sa volonté, ça va c'est nos prières qui vont être répondues. On va prier selon sa volonté. On ne priera plus pour notre volonté à nous. Le Seigneur peut-être vous a montré quelque chose depuis longtemps. Il vous appelle dans un ministère. Il veut vous donner quelque chose. Puis vous dites, oh mais non, 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 je ne peux pas accepter ça, je ne veux pas ça. Parce que je sais très bien qu'avec ce privilège-là, il y a une responsabilité. On veut le privilège, mais on ne veut pas la responsabilité. Donc, on va faire des prières qui sont selon la volonté de Dieu. On va prier selon sa parole. Donc, on ne demandera pas des choses extravagantes qui vont nous plaire à nous, qui vont être juste pour mon plaisir à moi. Parce que le plaisir, c'est éphémère. Ça dure juste un instant. On mange un drumstick, c'est parti dans 5 minutes, après ça, le plaisir est fini. Jusqu'au prochain. Savez, toutes choses, des bonnes choses, mais c'est temporaire. C'est du plaisir éphémère. On veut avoir ce plaisir du cœur, le contentement du cœur qui va durer pour toujours. Donc, on va faire des prières qui sont en accord selon sa volonté. On va prier selon sa parole, puis on va prier pour sa gloire et l'avancement de son royaume. Le dernier verset que je veux qu'on voit, mais pas le moindre, dans l'épître de Jean toujours. 1 Jean, le chapitre 5 et les versets 14 et 15. Le Seigneur est bon. Il veut nous donner ce qu'on a besoin. Il veut même plus que nous de nous accorder, de nous donner tout ce dont nous avons besoin. On sert un grand Dieu, un Dieu de plus qu'assez. Il faut arrêter de penser petit parce qu'on sert un grand Dieu. On travaille avec lui, lui avec nous. On ne fait rien à part de lui. 1 Jean 5, les versets 14 et 15 nous dit, nous avons auprès de lui, quoi? Cette assurance. Alléluia! Merci que c'est une assurance, c'est pas, mais peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, c'est sa volonté, mais s'il me l'a pas donné, c'est parce qu'il voulait pas me le donner, c'est sa volonté que je l'aime pas. Non, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute! Alléluia! Puis comme ça, c'est passé. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions. Ça, c'est clair. Quelque chose. Peut-être qu'il ne veut pas cette chose-là. Peut-être que si je demande ça, c'est trop. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, si on prie selon sa volonté, mais pour connaître sa volonté, il faut connaître sa parole. Si on prie, on ne prend pas jamais le temps d'être dans sa parole, on ne prend pas le temps de lire sa parole, on ne prend pas le temps de méditer sa parole, c'est là qu'on fait des prières au hasard. On demande n'importe quoi, n'importe comment, puis après ça, on dit, « Ah ben, je ne l'ai pas eu. Ça doit être comme ça. Je crois bien qu'il ne voulait pas me le donner. » On tourne la page, puis on fait une autre demande. On a des listes, des requêtes. Puis après ça, on regarde ça à la fin, puis on dit, « Mais j'ai peut-être 3 prières là-dessus sur 20 qui ont été répondues. » Non, le Seigneur dit tout ce qu'on va demander. Puis on a l'assurance auprès de lui, c'est lui qui nous invite, il nous donne cette assurance-là. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi? Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Peut-être c'est votre santé. Peut-être vous avez dit, bien là, ça fait longtemps que j'ai de la maladie dans mon corps. J'ai besoin que le Seigneur me touche. J'ai besoin de quelque chose que vous demandez selon sa volonté. Jésus est venu, il est envoyé par le Père pour manifester sur la terre la volonté du Père. C'est pour ça que Jésus est venu. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de venir. Il est venu, il fallait qu'il prenne la forme d'un être humain qui vienne sur la terre pour manifester la volonté du Père. Donc, quand Jésus guérissait les malades, il faisait la volonté de son Père. Donc, ça nous dit que la volonté du Père, c'est qu'on soit bien, qu'on soit guéri. Le Seigneur veut qu'on marche selon sa parole. Il veut vous donner tout ce que vous avez besoin, que ce soit la santé, la joie. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la joie, puis qu'il aille en abondance. Le Seigneur, c'est pas sa main qui est refermée, puis il nous donne pas ça au compte-gouttes. Il est pas un cheapo. Il a ouvert les écluses des cieux au-dessus de nos têtes. Il veut vous donner plus que vous pouvez même vous imaginer. Mais il faut rencontrer les conditions. Il faut dire, Seigneur, je te revais. Je me revais de toi. Je revais mes pensées. Je revais mes paroles puis mes actions, Seigneur Dieu. Je revais le Seigneur Jésus. Alors, je vais demander en ton nom puis je vais être capable de recevoir en ton nom. Si l'équipe de louange peut venir, s'il vous plaît, Jean-Charles. Donc, c'est des choses à réflexion ce matin. Ce sont les paroles de Dieu. Je ne l'ai pas inventé. Vous avez vu, il y avait des versets à l'appui. Que le Seigneur nous démontre. Il vous démontre à quel point il vous aime ce matin. Il veut vous donner tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous appartient en lui. Nous sommes dans les lieux célestes assis avec lui. Il veut que sa volonté au ciel s'accomplisse sur la terre. Elle va s'accomplir à travers vous, à travers de nous, l'Église. Alors, le Seigneur veut vraiment vous donner tout ce dont vous avez besoin. Levons-nous ce matin. On va se placer devant le Seigneur. Puis vous dites, « Oh, mais moi, je ne sais pas. Je sais pas comment prier. Je ne sais pas où commencer. » Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, la première place à commencer, c'est la prière de repentance. C'est la première prière. Est-ce que quelqu'un ici ce matin avec les yeux fermés, est-ce que quelqu'un ici ce matin qui n'est pas certain qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ de la façon biblique? Pas d'aller à l'église, on ne parle pas d'aller à l'église, on ne parle pas de rituel, on ne parle pas d'œuvre ici. C'est un don gratuit. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Je parle de quelqu'un qui ne sait pas, avec l'assurance qui sait aujourd'hui il mourait. Il a l'assurance dans son cœur qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Levez votre main si quelqu'un ici ce matin qui n'est pas certain d'appartenir au Seigneur. Sinon, on est tous des enfants de Dieu. Peut-être on a besoin de reconsacrer notre vie. Comme Pasteur Tonya disait mercredi, c'est pas parce qu'on a consacré notre vie un jour qu'elle est toujours consacrée. Il faut la reconsacrer chaque jour. Il ne faut pas regarder en arrière et dire, « Ah, oh, ben là, ma vie t'a consacrée, là, la semaine passée. Hey, as-tu vu, Seigneur, regarde, j'ai témoigné à ton nom. J'ai fait quelque chose de grand à ton nom. » La consécration, c'est chaque jour, chaque instant. Peut-être que vous avez besoin de reconsacrer votre vie au Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin du baptême du Saint-Esprit ce matin, parce qu'on parle de la prière. On a besoin d'être revêtu de Jésus-Christ, mais vous avez besoin d'être revêtu de sa puissance aussi. S'il y a quelqu'un qui a besoin du baptême du Saint-Esprit ce matin, avec l'évidence de parler en d'autres langues, c'est une puissance. Saint-Esprit vient sur vous. C'est lui qui va vous donner la puissance de témoigner, d'arrêter d'avoir peur puis d'ouvrir votre bouche à la gloire de son nom. Je vous invite à avancer ce matin. Si vous avez besoin d'être revêtu de Jésus-Christ, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, avancez-vous ce matin. Il ne faut pas qu'on soit gêné. Le Seigneur Jésus est ici. Sa présence est ici pour rencontrer chaque besoin ce matin. Alléluia. Alléluia. Si vous avez besoin de prière pour d'autres choses, le Seigneur connaît vos cœurs. C'est lui qui voit vos cœurs. Moi, je ne les vois pas. Je vois les visages. Je peux voir des sourires. Je peux voir des gens qui se questionnent aussi. Mais si vous avez besoin d'autres choses, avancez-vous. Le Seigneur va rencontrer votre besoin. Le Seigneur est fidèle. Il est présent ici ce matin. Son esprit est présent ici ce matin pour briser, pour détruire des jougs. On va prier pour vous. Ces jougs-là vont être brisés à tout jamais. Que ce soit le lien de la maladie, que ce soit n'importe quoi. Vous avez besoin. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on consacre nos vies ce matin à toi, Seigneur Dieu. À nouveau, Seigneur, on se met devant toi. Seigneur, on se rend disponible pour ton plan, Seigneur Dieu. On te dit, utilise-moi, Seigneur. Envoie-moi. Fais ton œuvre en moi, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, je prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, que tous les besoins de chacun, de chacune soient rencontrés. Seigneur, que tu puisses mettre dans nos cœurs le message que nous avons entendu ce matin. Qu'on puisse partir d'ici ce matin avec faire une décision de qualité, Seigneur, qu'on va demeurer en toi. On n'est pas juste nous te rendre visite, mais on demeure en toi et ta parole demeure en nous, Seigneur, afin que le monde voit que c'est toi qui as envoyé Jésus. Que les gens voient à travers de nous, Jésus. On veut que les gens voient à travers de nous ton œuvre, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons la gloire qui te revient. Dans le nom de Jésus. Amen.
On va chanter un dernier chant. Mais avant, je voulais vous rappeler que mercredi, nous avons une réunion à 7h et que dimanche prochain à 10h. Amen.